Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité, à Kinshasa, enfants, parents et proches ont pris les chemins des cimetières ce samedi à l'occasion de la journée de parents et des souvenirs des disparus. Entre recueillement, entretien des sépultures et forte affluence, le principal cimetière de la capitale ont retrouvé leur animation habituelle, vous l'attendrez. Autre temps fort de cette édition au Nord Kivu, la MONUSCO renforce son engagement de la lutte contre Ebola. Après l'appui logistique à la riposte, la mission onusienne mise désormais sur la sensibilisation communautaire afin de combattre le rumeur et d'améliorer l'adhésion de populations aux mesures de prévention. Et à suivre à la fin de cette édition, notre invitée Antoinette Zawadi, responsable du collectif des associations féminines de Beni. Elle revient sur les défis économiques et sociaux auxquels les femmes continuent de faire face malgré l'amélioration de la situation sécuritaire dans le secteur de Rwenzori. Voilà pour les principaux titres, les détails dans un instant. Christophe Macassing à la présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ouvrir ce journal, intéressons-nous à une journée de mémoire et de recueillement. À l'occasion de la journée de parents et du souvenir des disparus, célébrée chaque 1er août, enfants, parents et proches ont pris ce samedi le chemin des cimetières de Kinshasa pour rendre hommage aux membres de leur famille disparus. Entre moments de recueillement, entretien de sépulture et forte affluence, les cimetières de Kinsuka, Mingadi, Kitambo et de la Gombe ont retrouvé leur animation habituelle. Les constats d'Elachim Balou.
Dès les premières heures de la matinée, les principaux arrêts des bus et plusieurs stations-service de Kinshasa connaissent une animation inhabituelle. Des familles entières prennent la direction des différents cimetières de la capitale. À la main, beaucoup ont déballé des pots de peinture, des brosses, de fleurs et d'autres matériels destinés à l'entretien des tombes de leurs proches. À l'entrée des cimetières de Kinsuka, Mingadi et Kitambo, les va-et-vient est permanent. Les véhicules transportant les familles se distinguent parfois par des rameaux fixés sur les pare-brises ou au rétroviseur. Ainsi, associé à cette journée de recueillement. À l'intérieur, plusieurs jeunes proposent leurs services. Nettoyage des tombes, désherbage, réhabilitation des sépultures ou encore remise en état des caveaux. Une activité qui leur permet de gagner un revenu supplémentaire en cette journée de forte affluence. Dans ces mêmes cimetières, un autre constat attire l'attention. Faute d'aller suffisamment aménagées ou encore par manque de vigilance, certains visiteurs marchent sur des tombes pour atteindre celles de leurs proches. Au cimetière de la Gombe, l'atmosphère est davantage marqué par les silences, les prières et les recueillements. Les visiteurs les font devant les sépultures de leurs proches, dans un climat de respect. À Kinshasa, le 1er août n'est pas seulement une date inscrite au calendrier. C'est un moment de souvenir, de recueillement et de fidélité à la mémoire de ceux qui ne sont plus.
Direction à présent l'Ituri, où cette journée de parents est aussi l'occasion de rappeler le rôle essentiel de père et de mère au sein de la famille. Le 1er août est célébré au Congo comme la journée de parents. Au-delà de l'hommage rendu aux pères et aux mères, cette journée invite à réfléchir aux responsabilités familiales et à avoir une pensée pour celles et ceux dont les parents ne sont plus de ces mondes. Reportage de Jean-Claude Lokidile.
Le 1er août est une journée de reconnaissance envers les parents. Pour beaucoup, elle rappelle avant tout les devoirs qu'impose la parentalité. C'est le point de vue de Noël Albert Kabeya, père de famille.
La journée d'aujourd'hui, c'est un rappel. Donc j'ai la responsabilité d'abord envers mes enfants. Alors je dois prendre soin d'eux, je dois les amener à l'école. S'ils tombent malades, je suis censé les amener à l'hôpital. Et je dois lui montrer aussi le chemin du Christ.
Au-delà de cet appel à la responsabilité, cette célébration est aussi un moment de recueillement pour ceux qui ont perdu leurs parents. Albert Diokaba, orphelin de père, partage son ressenti.
Quand vous les perdez comme ça, vous allez toujours dire non à ces jours, je devrais aller voir mon père.
À la paroisse catholique de Brazza, Lumumba, où une messe a été célébrée à l'occasion de cette journée, l'abbé curé Michel Manganga a exhorté les familles à redoubler la vigilance face aux défis de l'ère numérique.
Alors, si les parents pouvaient arriver, mettre les enfants dans le bain de la vie chrétienne, je pense que les parents feraient beaucoup.
Une journée de célébration, mais surtout un rappel à la responsabilité qui incombe à chaque parent. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Toujours à l'occasion de cette célébration, donnons maintenant la parole aux enfants. À Kindu, des enfants majeurs livrent leur regard sur la place des parents dans la famille. Dans ces vox pop réalisés par Florence Kizalunga, ils rendent hommage à leurs parents et invitent ceux qui se rebellent contre eux à changer de comportement. Suivons-les.
Pour moi, les parents, ce sont des êtres chers. On peut pas remplacer les parents. Donc, pour moi, je l'aime tant. Ce sont des êtres chers pour moi.
Dédier une journée pour les parents, c'est quelque chose qui mérite. Et les parents, pour nous, ce sont des gens qui ont fait ce que nous puissions être. Et sans eux, il n'y a pas la vie. Sans eux, il n'y a pas l'humanité. Alors, ils méritent tout notre amour, tous nos respects et tout ce que nous avons. Je crois que nos parents méritent ça.
Bon, juste après, Dieu, ce sont mes parents parce qu'ils m'ont fait à ce que j'ai vu. C'est grâce à eux que je suis dans le monde. Bon, je les donne seulement mes merveilles.
De mon côté, comme un enfant, moi, en tant qu'un enfant, je conseille aux enfants comme moi de ne pas se rebeller contre ses parents. Car il est inadmissible d'avoir un enfant qui se rebelle contre ses parents. Même la Bible dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Chers enfants, obéissez à nos parents, aimons nos parents, chérissons nos parents, car ce sont eux qui sont nos dieux sur cette terre.
Changeons de registre pour nous rendre dans le Haut-Katanga, où le président de la République poursuit son séjour à Lubumbashi. Le président Félix Tshisekedi est depuis hier à Lubumbashi au programme du chef de l'État, des inaugurations de certaines infrastructures dans la capitale du cuivre. C'est le cas notamment ces samedis du nouveau palais de justice moderne situé sur l'angle des avenues Kimbangu et des chutes dans la commune de Lubumbashi. Cette infrastructure est destinée à améliorer les conditions de travail des magistrats et en même temps favoriser le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Toujours à Lubumbashi, une autre actualité retient l'attention. Les consultations menées par Raphaël Katebe Katoto continuent de susciter de réactions. En séjour à Lubumbashi, après plusieurs années d'absence, le notable Katangais a entamé depuis jeudi dernier à l'hôtel Pullman Lubumbashi une série de consultations avec les forces vives. Katebe Katoto reçoit différentes couches de la population autour du vivre ensemble. Certaines personnes apprécient cette démarche. D'autres, par contre, voient dans cette consultation un agenda politique. Le point avec Paul Mounanga.
Parmi les groupes qui sont reçus, il y a les leaders religieux, les députés provinciaux honoraires, la jeunesse katangaise, la dynamique des femmes leaders katangaises, les associations socioculturelles, les collectifs des notables de Kipushi et plusieurs organisations de la société civile ainsi que d'autres leaders politiques et communautaires. Les échanges tournent autour des principaux défis de la province et des préoccupations de la population. Quelques personnalités s'expriment au sortir des consultations.
C'est une initiative très très bonne parce qu'il y a déjà eu des démarches dans le passé et cette fois-ci on a vu que ça pourrait arriver à l'oreille sur la table du président Félix.
On nous a demandé à ce que nous puissions donner aussi les cahiers des charges. Nous allons rédiger notre cahier des charges pour déposer afin que le problème que nous avons soulevé puisse trouver une solution durable.
Nous avons quand même présenté des petits problèmes qui gangrènent notre convention au Katawa.
Signalons que certaines personnalités consultées affirment que Katebe Katoto a été envoyé par les chefs de l'État pour organiser les consultations. Par ailleurs, une certaine opinion pense que derrière ces consultations se cachent des motivations politiques. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
En Ituri, la lutte contre Ebola passe désormais par une implication plus forte de communautés. Après avoir renforcé les capacités logistiques de la riposte, la MONUSCO mise désormais sur l'engagement communautaire pour freiner la propagation de l'épidémie. Un projet a été lancé à Miala, dans les territoires de Djougou. Les récits de Jean-Claude Lokidile.
Après les ambulances, les véhicules tout-terrain et les motos remis à l'Organisation mondiale de la santé pour soutenir la riposte contre Ebola, la MONUSCO, à travers sa section de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire, ouvre un nouveau front, celui de l'engagement communautaire. Mise en œuvre par les organisations locales Hope for Peace and Development et les réseaux des associations pour le développement durable, ce projet vise à renforcer la confiance des populations, combattre les rumeurs et la désinformation, tout en impliquant les bénéficiaires du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation comme relais communautaire. Les activités ont été lancées jeudi à Miela dans la périphérie de Bounia, avec une session de renforcement des capacités réunissant leaders communautaires, religieux, coutumiers, femmes et jeunes. Le projet sera également déployé à Balingina, à Sota et à Chomia, dans les territoires de Djougou et d'Irumu, et près d'une centaine de bénéficiaires seront formés, tandis que plus de 20 000 personnes seront sensibilisées à travers des dialogues communautaires, des émissions de radio et un mécanisme de suivi des rumeurs. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Toujours dans les domaines de la santé, direction le Kasaï Oriental, où une campagne de réparation gratuite de fistules obstétricales aurait donné espoir à plusieurs femmes. Plus de 20 femmes de Mbujimayi et celles venues de provinces voisines ont été réparées des fistules obstétricales depuis près d'une semaine. Ces interventions chirurgicales s'effectuent au centre prébystérien à Mbujimayi, dans le pavillon Fistula Clinique. Cette action rentre dans le cadre de la campagne de la réparation gratuite qui prend fin vers la fin du mois d'août. Esther de la FINA pour le reportage.
Nathalie Kapinga, ménagère venue de Baloubachankadi dans la province de Lomami, raconte son calvaire après avoir souffert des fistules obstétricales depuis 4 ans.
Premier accouchement, il y avait eu des chirures et puis on a essayé un peu de suturer, ça n'a pas marché. Sous l'anesthésie générale, le docteur a tout déchiré et puis il y a saignement. Oui, l'opération, je pense, 2 jours. Je constate déjà les selles qui venaient déjà dans la cavité vaginale. Je suis contente ici, on m'a soignée.
Monique Ndai est venue de Kanyamakassese après 17 ans de maladie avec un accouchement compliqué, témoigne être actuellement guéri des fistules.
Un médecin avait mal conduit mon accouchement. Les urines ont commencé à couler sans mes efforts personnels. Je suis venue ici. On m'a soignée, je me porte bien.
Au cours de la campagne de réparation, tous les actes sont gratuits. Esther Tidibi se réjouit des dispositifs mis en place.
Je suis contente de l'accueil. On a fait tout gratuitement. Nous n'avons pas payé la fiche. Moins encore la consultation. Tout est gratuit. On a été informés à travers les médias.
Les femmes réparées sont contentes. Cependant, Dr Jean-Pierre Lokoji, point focal des Fistula Clinique, affirme que le centre est confronté à plusieurs difficultés, dont le manque de partenaires pour la prise en charge des femmes souffrant de fistules obstétricales. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Kapi.
Du Kasaï Oriental au sud Kivu, où l'accès à l'eau potable demeure un véritable défi pour des milliers des habitants de Bukavu. Environ 145 000 habitants du quartier Chahi éprouvent plusieurs difficultés pour accéder à l'eau potable fournie par la régie des eaux. Pourtant, des infrastructures communautaires destinées à faciliter le transport et la distribution de cette denrée existent déjà. Malgré cela, l'eau n'écoule toujours pas du robinet, déplore le Force Vive local. En cette période des saisons sèches, cette pénurie favorise l'apparition de maladies liées au manque d'hygiène et au lavage insuffisant de mains. Ronelly Tibonera nous fait le point.
Sur place, c'est la désolation selon les forces vives locales. Les habitants qui avaient accueilli avec espoir la construction de plusieurs bornes fontaines dans le cadre du projet Imagine de Mercicorps dénoncent aujourd'hui un projet sans impact sur leur vécu quotidien. Si les bornes fontaines ont bien été construites, les raccordements au réseau d'alimentation en eau n'a jamais été réalisé depuis 2021. Selon le président de la société civile de ces quartiers, cette pénurie contraint aussi bien les habitants que les adultes à parcourir des longues distances pour se procurer de l'eau potable. D'autres sont obligés de s'approvisionner dans des sources non aménagées communément appelées bisola, ce qui expose les habitants, en particulier les enfants, à de nombreux risques, notamment des agressions sexuelles, des accidents et des enlèvements et même des maladies diarrhéiques, explique Shukuru Luekia.
Il y avait des factures qui provenaient de la régie des eaux en demandant de payer de l'eau que la population n'ait jamais consommée au moment où les enfants sont victimes d'enlèvements, de viols, noyades, à la recherche de l'eau, à la société régie des eaux, de remettre la population dans leurs droits, car l'eau, c'est la vie.
Pour rappel, le quartier Chahi figure parmi les entités les plus densement peuplées de Bukavu. Toutefois, les investissements dans les infrastructures communautaires des bases y demeurent insuffisants.
Retour au Dorkivu, les enseignants de nouvelles unités lancent un appel au gouvernement à l'approche de la rentrée scolaire. À Rutshuru, les enseignants des écoles publiques non mécanisées appelées nouvelles unités vivent des vacances difficiles. Contrairement à leurs collègues pris en charge par l'État, ils ne perçoivent aucun salaire et doivent multiplier les moyens de subsistance pour faire face à leurs besoins quotidiens. À un mois de la rentrée scolaire, une centaine d'entre eux réclament la régularisation de leur statut et leur intégration sur la liste de paie de l'État. Le point avec Rosalie Zawadi.
Enseignant, pharmacien, vendeur de chaussures, ce n'est pas une liste de trois personnes différentes, mais le quotidien d'un seul homme. Quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, ses pères de cet enfant répond pourtant avec fierté « Je suis enseignant ». Mais pour nourrir sa famille, c'est dans la caisse de sa toute petite pharmacie qu'il doit piocher, car à l'école secondaire où il travaille à temps plein dans la cité de Kiwanja, il est classé nouvelle unité. En clair, l'État ne lui verse aucun salaire.
Cette officine qui m'aide, je vois aussi des souliers, mais s'il n'y avait pas cela vraiment, je ne trouverais rien au sujet de vivre. La nourriture, en tout cas, serait tellement difficile pour moi, pour ce jour. Et c'est pas à dire que, avec cette officine, soit cette vente de souliers, peuvent parvenir à subvenir à tous nos besoins. Par exemple, les fournitures scolaires. Il y a aussi d'autres qui sont locataires pour nous qui sommes aînés. Il y a un grand problème que le gouvernement passe vraiment pour nous.
Comme lui, ils sont nombreux à enseigner chaque jour dans l'espoir un jour de voir tomber un salaire de l'État. En attendant, ils s'adaptent. Une situation qu'ils vivent comme une injustice. Pour eux, on ne devrait pas réduire à la misère ceux qui ont la lourde tâche de former les futurs cadres de la nation. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 67 migrants ont perdu la vie en voulant rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, où plus de 50 000 personnes sont entrées illégalement ces derniers jours. Si la situation est désormais presque revenue à la normale, cette vague migratoire a provoqué une vive crise diplomatique au sein de l'Union européenne.
L'invité.
Nous terminons cette édition avec notre invitée Antoinette Zawadi, responsable du collectif des associations féminines de Béni. Comme annoncé au sommaire, elle revient sur les défis économiques et sociaux auxquels les femmes continuent de faire face dans les secteurs de Ouezori, malgré l'amélioration progressive de la situation sécuritaire. Elle répond aux questions de Martial Papi Moukeba.
Madame Antoinette Zawadi, bonjour.
Bonjour.
Quelle est aujourd'hui la situation de la femme dans les secteurs de Rwenzori?
La situation de la femme dans les secteurs Rwenzori est telle que la femme aujourd'hui, elle est un peu épanouie par rapport au jour passé suite à l'insécurité qui était grandissante à secteur de Rwenzori. Mais comme il y a aujourd'hui une petite accalmie, la femme c'est ça quand même un peu soulagée. Elle peut vaquer librement à ses occupations, elle peut juste aller au champ qui est juste à côté, mais la peur reste encore. Elle ne peut pas aller encore loin, comme la plupart des femmes dans le secteur sont des cultivatrices et s'occupent des champs pour nourrir leur ménage. Alors, pour le moment, elle se contente seulement d'aller juste à côté où elle peut trouver, elle peut semer quelques haricots, quelques patates douces, ne fût-ce que pour nourrir la famille.
Et quels sont les indicateurs qui vous poussent à dire qu'aujourd'hui, la femme du secteur des Ruizori est un peu épanouie?
Si vous arrivez le jour du marché, par exemple, si vous arrivez au marché du secteur, si à Mutuanga, le marché qui jadis, il n'y avait pas de personnes, mais si vous y allez, vous allez quand même trouver les femmes en train d'étaler la nourriture et les autres, les petits commerces. Ça, c'est un grand indicateur qui montre que quand même la femme est en train d'être épanouie petit à petit suite à la sécurité qui a été grandissante.
Et cette situation est observée depuis combien de temps?
C'est depuis presque une année, puisque ça fait une année qu'il n'y a pas d'ingestion des ADF dans la contrée et la vie est en train de reprendre petit à petit.
Quels sont les principaux défis auxquels les femmes et les jeunes filles sont confrontées dans les secteurs des Ouenzori?
La femme n'arrive pas à subvenir vraiment à ses besoins parce que les revenus est épais, insuffisant, puisque là où elle devait aller cultiver pour avoir quelque chose, ce n'est pas facile. Mais aussi, cette situation pousse surtout les jeunes filles du secteur à chercher à avoir le sexe de survie. Parce que, comme je l'ai dit, elles n'ont plus les moyens, c'est vraiment, vraiment limité. Elles se disent que vraiment, elles doivent se donner pour avoir certains besoins. Ça, c'est un grand défi au niveau du secteur. Et nous pensons qu'il faut que la paix revienne et que ces femmes, les filles qui se donnent à ce comportement, puisqu'elles n'ont pas les moyens pour survivre, que ça puisse cesser.
Est-ce qu'il y a aussi des cas de violences faites aux femmes et des violences sexuelles qui sont souvent signalées ou que vous avez déjà documentées dans les passés?
Oui, des cas ne manquent jamais. Avec la guerre, les cas sont multiples par-ci, par-là. Les femmes sont en train de s'efforcer d'alerter par rapport à ça, mais ça reste quand même un défi encore majeur dans ce secteur.
Les jeunes filles ont l'accès facile à l'éducation dans les secteurs de Rwenzori.
Au niveau de l'école primaire, oui, puisque avec la gratuité, tout le monde va à l'école. Mais à l'école secondaire, certaines filles sont bloquées parce que j'ai dit tantôt que à cause de la sécurité, c'est les chats qui produisaient les frais scolaires. Mais pour le moment, en tout cas, on réduit juste le nombre des enfants qui doivent aller à l'école et c'est un grand défi vraiment au niveau de la communauté. Néanmoins, il y a des filles qui apprennent certains métiers comme la coupe couture, le tissage des paniers, pour les aider, ne fût-ce qu'avoir quelque chose pour les aider dans leurs besoins primaires.
Quelles actions votre collectif mène-t-il pour améliorer leurs conditions de vie et quels sont aujourd'hui vos principaux besoins?
On les apprenait à tisser les paniers, à faire la coupe couture, à faire le tressage des cheveux, à faire du jus pour qu'essaient aussi de se prendre à charge par rapport à certains besoins. Et actuellement, c'est un peu difficile, comme vous le savez, la situation financière au niveau mondial n'a pas permis d'avoir beaucoup plus de financement, mais on le fait à notre niveau, mais qui n'est pas suffisant comme nous n'avons pas aussi beaucoup de moyens. Et le besoin est que les partenaires puissent jeter un regard aussi dans le secteur de Rwenzori et voir comment aider cette femme-là qui est en train de faire des sommets à son niveau afin qu'elle s'épanouisse davantage.
Madame Zawadi, merci.
Merci beaucoup.
Fin de cet entretien avec Antoinette Zawadi, responsable du collectif des associations féminines de Béni. Elle répondait aux questions de Marcel Papi Moukeba. C'est ici que prend fin cette grande édition des 18h. Christian Makassing était à la présentation sous la supervision de Lévin Bwinga et Jean-Désiré Kanyama à la coordination avec Alain Goy à la mise en onde. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletins d'information de ce jour.